Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Mauvais, bête, franc-maçon, un document interne fiche des cadres de force ouvrière. Voilà ce que dénonce ce matin le Canard enchaîné. Le secrétaire général du syndicat ne nie pas ce mémo, mais il déplore ce qu'il contient. Quand le remaniement se fait attendre, une semaine après la démission de Gérard Collomb, on ne connaît toujours pas son successeur, place Beauvau. La faute peut-être à un désaccord entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, vous l'entendrez. Dans cette édition encore, nous irons à Washington, où Nikki Haley a présenté sa démission à Donald Trump hier. Elle était jusque-là ambassadrice des États-Unis à l'ONU et a de grandes ambitions. Et puis, moins 35% d'émissions de CO2 pour les voitures et les utilitaires d'ici à 2030. Les Européens se sont mis d'accord pour tenir cet objectif hier. C'est moins bien que ce qui avait été signé lors de la COP21 à Paris. Les cadres du syndicat Force Ouvrière ont donc été fichés dans une note interne. C'est ce que révèle aujourd'hui le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire satirique, cet épais fichier a été constitué en octobre 2016 par des proches de l'actuel patron de Force Ouvrière, Pascal Pavageau. Il était alors en lice pour remplacer Jean-Claude Mailly. Et à l'intérieur de ce fichier, il y a des commentaires plutôt déplacés, Victoria Coussa.
Ordures, niais, bêtes et même voleurs dans les portefeuilles, sans parler de l'opinion politique et parfois de l'orientation sexuelle qui accompagne les informations traditionnelles, photos et numéros de portable du responsable fiché. Ils sont 126 en tout à en faire les frais. Patrons des fédérations professionnelles, métallurgie, bâtiments, cheminots ou ceux des unions départementales. Je tombe de l'armoire, témoigne Jean-Claude Mailly, l'ancien patron de FO. Il a juré par téléphone à France Info ne pas avoir eu vent de l'existence de ce fichier surréaliste, d'après ses mots, avant ces révélations. De son côté, Pascal Pavageau, l'actuel secrétaire général, reconnaît au Canard enchaîné une belle connerie. Ce sont ses proches qui ont constitué ce fichier il y a 2 ans. C'était un mémo de l'ordre de la prise de notes truffé d'âneries et de raccourcis. Un document de travail qui, dit-il, ne devait évidemment pas circuler.
Pascal Pavageau bien embêté donc. Hier, il défilait contre la politique du gouvernement. Au total, environ 160 000 personnes ont manifesté partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. Elles étaient 300 000 selon la CGT. Aujourd'hui, la concertation des partenaires sociaux, par ailleurs, reprend sur la réforme des retraites. Les partenaires sociaux qui attendent que le gouvernement lève enfin le voile sur ses intentions. Pas de démission de Philippe II pour un gouvernement Philippe III. Pas de discours de politique générale, ni de vote de confiance et un calendrier toujours aussi flou sur la fenêtre de tir. 8 jours après le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, le remaniement s'annonce beaucoup moins spectaculaire que ce que certaines sources de la majorité laissaient entrevoir hier encore. Un conseil des ministres est convoqué comme tous les mercredis à 10h aujourd'hui, avec autour de la table un président Emmanuel Macron imperméable à la pression. Il veut de la continuité plutôt que le nouveau souffle, Yael Gauz.
C'est comme si la bulle spéculative du remaniement faisait pchit. Pas de démission du gouvernement, cela veut dire statu quo. Même politique, banalisation des changements dans les ministères, et c'est parfaitement assumé. À l'hystérie médiatique, l'Élysée répond par le silence et par la promenade. On a vu Emmanuel Macron déambuler tranquillement sur les quais de Seine hier soir à Paris. La vie de l'État continue, avec ou sans remaniement. Il y a une équipe aux manettes, on est calme, on est serein, insiste un proche du président. Du mouvement, il y en aura, mais il consulte encore, nous dit-on. Il avance à son rythme pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ni plus, ni moins. Un président maître des horloges, à moins que la réalité soit plus cruelle, celle d'un casse-tête et même d'un désaccord avec Matignon sur la succession de Gérard Collomb. Autre paradoxe, si ce remaniement est un non-événement, alors pourquoi est-ce que les troupes macronistes, Richard Ferrand en tête, font la promotion d'un nouveau souffle, d'un an 2 du quinquennat? Depuis la rentrée et les chocs successifs subis par l'exécutif, les voix de l'Élysée sont devenues impénétrables.
Et en attendant une éventuelle communication aujourd'hui, le tandem Gérald Darmanin-Agnès Buzyn présentera le projet de loi sécurité sociale en Conseil des ministres ce matin. 2 magistrates du parquet de Paris ont été placées en garde à vue, c'est du jamais vu dans la justice. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à une fausse garde à vue en 2012, une garde à vue fictive dans le cadre d'une opération d'infiltration de réseau pour des trafiquants de drogue. C'était un poids lourd de l'administration Trump. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, quittera ses fonctions à la fin de l'année. Elle l'a annoncé hier, à 4 semaines seulement des élections de mi-mandat outre-Atlantique, sans donner d'explication claire. Il n'y a qu'une seule certitude, Nikki Haley dit qu'elle ne se présentera pas à la présidentielle de 2020. Pourtant, beaucoup lui prédisent à 46 ans un grand avenir politique, Grégory Phillips.
Hier après-midi, dans le bureau ovale, elle jurait qu'elle ne quittait pas son poste d'ambassadrice aux Nations Unies pour se présenter à la prochaine présidentielle et qu'en 2020, elle soutiendrait Donald Trump. Elle explique aussi qu'elle a simplement besoin de marquer une pause après 6 années au poste de gouverneur de Caroline du Sud et 2 années intenses aux UN. Nikki Haley quittera donc son poste à la fin de l'année, mais sans donner beaucoup plus d'explications. On remarque toutefois que depuis la nomination de Mike Pompeo au département d'État au printemps et celle de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale, elle était un peu moins dans la lumière. Les observateurs notent aussi que Nikki Haley est ambitieuse, qu'elle est une figure relativement modérée et respectée au sein du Parti républicain. Avant 2016, elle a parfois critiqué Trump, mais lui a toujours été loyale du moment où elle a intégré l'équipe du président. En s'éloignant de la Maison-Blanche, Nikki Haley s'ouvre donc d'autres portes. On évoque son nom pour un ticket avec Trump en 2020 comme vice-présidente et pourquoi pas une candidature, mais en 2024. Son prochain départ et cette annonce à 4 semaines des élections de mi-mandat a en tout cas pris tout le monde de court ici à Washington. Et pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière cette décision.
Grégory Phillips pour France Culture. Nous restons aux États-Unis en cette journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Les États-Unis sont le dernier pays occidental à pratiquer la peine de mort. Elle existe dans 31 États américains, même si dans les faits, ils sont de moins en moins nombreux à la pratiquer, pas forcément pour des raisons morales, non, mais pour des raisons plus cyniques. La plupart des compagnies pharmaceutiques outre-Atlantique, des compagnies qui fournissaient les éléments chimiques pour les injections létales, eh bien, elles ont arrêté de livrer leurs produits. Une pénurie qui a conduit les États à trouver des alternatives moins efficaces et qui provoque de plus en plus l'indignation de l'opinion publique, Claude Dibal.
Juillet 2015, l'horreur, l'agonie d'un homme dans une chambre d'exécution, 2 heures de convulsions et de gémissements pour Joseph Wood. Mais il y a aussi Dennis McGuire, 25 minutes, Clayton Lockhart, 43 minutes aux États-Unis. C'est la sidération, un brutal rappel de la réalité terrible des exécutions. Jusqu'alors, la mort par injection létale était la plus répandue aux États-Unis, une mort obtenue par l'assemblage de plusieurs produits, dont un anesthésiant, une mort sans souffrance apparente, perçue comme moins cruelle que la pendaison ou la chaise électrique. Mais en 2011, le laboratoire américain qui fournit ce barbiturique cesse sa production. Pour éviter la pénurie, les États se tournent alors vers les laboratoires étrangers. C'est là que l'action des abolitionnistes s'avère déterminante. Au nom du droit à l'information, ils exigent de connaître l'origine de ces produits. Publicité catastrophique pour les laboratoires européens qui, tour à tour, arrêtent alors leurs ventes. Depuis, faute d'alternatives chimiques efficaces, les exécutions ratées se multiplient. Certains en reviennent au peloton d'exécution et la polémique enfle, obligeant de nombreux États à stopper, au moins momentanément, leurs exécutions.
Il n'y aura bientôt plus beaucoup de véhicules diesel à Berlin sur décision de justice. Une interdiction de circulation a été annoncée hier pour les véhicules diesel ayant plus de 3 à 4 ans. Interdiction de circuler à compter de juin ou juillet prochain. L'industrie automobile emploie 800 000 personnes outre-Rhin. Les véhicules polluants qui devront de toute façon réduire la voilure. Hier, les ministres européens de l'environnement se sont mis d'accord pour diminuer de 35% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Hier aussi, un tribunal des Pays-Bas a condamné l'État néerlandais pour fait de pollution atmosphérique. Tout cela à quelques semaines de la COP24 en Pologne. C'est dire Quentin Dickinson si les ministres de l'environnement hier étaient soumis à une forte pression à Luxembourg.
Par les accords de Paris sur le climat, les Européens s'étaient notamment engagés à réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre avant 2030. La négociation qui s'est terminée ici bien après minuit avait pour objectif de fixer la réduction de dioxyde de carbone en pourcentage par rapport au niveau de 2021, spécifiquement pour les voitures de tourisme et pour les utilitaires légers. Deux camps se faisaient face, les partisans d'une réduction de 30% emmenée par l'Allemagne et par la Commission européenne et les 17 pays, dont la France, favorables à 40%. L'Autriche, qui présidait la réunion, tentait assez logiquement un compromis à 35%. C'est finalement ce dernier chiffre qui l'a emporté, mais assorti d'une flopée de mesures destinées à satisfaire tout le monde, dont une réduction limitée à 30% pour les camions et camionnettes de moins de 3,5 tonnes, et avec une clause de rendez-vous intermédiaire en 2023 pour affiner le tir. La difficulté, c'était tout à la fois de respecter les objectifs des accords de Paris, de satisfaire les pays les moins écologistes, tout en évitant de noyer les pays voisins de l'UE de centaines de milliers de véhicules déclassés parce que trop polluants.
Une dégradation pluvieuse arrive ce mercredi par le Languedoc-Roussillon et les Cévennes. Elle va remonter sur l'ouest de la France dans la journée. Partout ailleurs, Météo France prévoit du soleil et une grande douceur avec des températures qui remontent un peu. 15 degrés ce matin à Besançon, 17 à Lille et Lyon, 18 à Rennes, Paris, Bordeaux, 24 sur la Corse.